En 1980, la ville de Claymore, en Australie, est secouée par une affaire à la fois inconcevable et terrifiante. Aujourd'hui assez méconnue, cette histoire ressemble presque à une légende urbaine, tant elle paraît inimaginable. Et pourtant, elle est bien réelle. Je suis Jean-Robert, et je suis aujourd'hui avec Capucine et Michael.
Bonsoir.
Bonsoir.
Vous écoutez l'épisode La chambre des enfants. Située à 54 km au sud-ouest du quartier des affaires de Sydney, compte, selon le recensement de 2016, un peu plus de 2000 habitants. C'est une ville assez modeste, où le revenu moyen par semaine est de 698 $, bien en dessous de la moyenne nationale, qui est de 1486 $ par semaine. La population est assez jeune, avec un âge moyen de 23 ans, comparativement à l'âge moyen de 38 ans dans le reste du pays. En effet, plus de 33% de la population de la ville de Claymore, en 2016, a 14 ans ou moins. En 2012, un programme télévisé appelé Four Corners et diffusé sur la chaîne ABC, intitulé « Grandir en étant pauvre », suit les vies de plusieurs enfants de familles pauvres de Claymore. Dans le programme, on apprend que la ville a la population la plus jeune de toute l'Australie. Dans un rapport de 2015, il est noté que la ville de Claymore est l'une des plus désavantagées socialement de la région. Les enfants, dont les familles sont en majorité monoparentales, peinent à trouver des opportunités et de l'espoir, et tombent ainsi dans la délinquance. Pourtant, dans les années 1970, Claymore est en train de se construire, et les familles qui décident de s'y installer voient en elles un nouvel espoir. À cette époque, l'expansion de Sydney est importante, et des promoteurs envisagent de développer les banlieues, même un peu lointaines. Ainsi, la commission du logement entreprend dans les années 70 un grand développement de la région, en construisant notamment des logements sociaux dans la région. En 1970, s'installent les premiers résidents, et on considère aujourd'hui 1978 comme la date de création de la ville de Claymore. C'est à ce moment-là que la famille Moore décide de s'installer dans la petite ville de Claymore. Jessie, son mari et leurs trois enfants, Hélène, Peter et Andrew, déménage donc dans une petite maison, et espère ainsi pouvoir s'établir dans la ville. Malheureusement, Jessie, la mère de la famille Moore, alors âgée de 34 ans, trouve sa fille assez perturbée. Hélène, alors adolescente, est assez, voire même très colérique. Jessie pense d'abord qu'il s'agit d'une crise d'adolescence qui va passer, mais Hélène est difficile depuis longtemps. C'est une jolie jeune fille blonde, au nez court et aux yeux écartés, intelligente et déterminée. Malgré tout, elle n'a pas vraiment d'amis, et peine d'autant plus à s'intégrer chez les jeunes de Claymore. Son tempérament rebelle et colérique ne l'aide pas à se faire des contacts, et elle est finalement assez isolée. Parfois, elle craque et devient violente. À la suite d'une partie de cartes gagnée par son frère cadet, elle s'en prend à lui et lui arrache les cheveux. Elle arrache également les membres de ses poupées. C'en est trop pour Jessie, qui prend la décision d'emmener sa fille chez le psychiatre. Lors de ce rendez-vous, Hélène est très calme, pudique, et semble presque mal à l'aise. Elle baisse les yeux face au psychiatre, répond très calmement aux questions posées, et se présente comme une jeune fille timide et douce, pas vraiment bien dans sa peau. À la suite de cet entretien, le psychiatre est définitif. Hélène n'a aucun problème. C'est une adolescente normale, qui traverse les difficultés classiques que traverse tout adolescent. Et Jessie Moore en fait sûrement un peu trop. Jessie insiste cependant auprès du médecin. Selon elle, Hélène est à moitié ange et à moitié démon. Elle explique qu'elle a eu une prémonition. Sa fille pourrait un jour commettre des crimes terribles, elle en est sûre. Elle supplie alors le médecin de l'aider, disant qu'elle sent depuis toujours que quelque chose ne va pas chez sa fille, et que ce sentiment s'est transformé en certitude quand Hélène avait un an et demi. Selon Jessie, ce n'était pas une enfant classique, non. Elle brutalisait ses jouets, et elle avait une attitude très destructrice. Elle dit au médecin « Hélène a un problème mental depuis qu'elle est bébé. » C'est devenu évident à l'âge de 18 mois. Elle avait des difficultés à communiquer et était très destructrice. elle détruisait ce qu'elle possédait. Elle détruisait d'ailleurs toutes les choses qu'elle aimait. Une fois, elle s'est disputée avec un de ses frères, et elle lui a arraché une poignée de cheveux. Le médecin est choqué par les dires de Jessie. Comment imaginer que Hélène, si douce et si angélique, puisse se montrer si difficile, voire diabolique? Non, le médecin ne peut s'y résoudre. Visiblement, dans cette histoire, c'est Jessie qui a un problème. Finalement, Jessie et Hélène sortent du rendez-vous avec une prescription pour des anxiolytiques destinée à Jessie. Le psychiatre considère que c'est la mère de famille qui a visiblement besoin d'aide, et pense même qu'elle nuit à sa fille en se persuadant que cette dernière a un problème. Le temps passe, et Jessie, désormais sous anxiolytique, reste convaincue que sa fille est psychologiquement instable. Un jour, Hélène rentre de l'école, visiblement perturbée. Elle révèle qu'un homme a éjaculé sur elle dans les transports en commun, alors qu'elle portait son uniforme scolaire. Les parents Moore sont désolés de cette situation, mais décide de ne pas porter plainte, malgré le comportement de Hélène Moore qui devient de plus en plus bizarre. Pendant une période, Hélène a un petit ami, mais celui-ci finit par la quitter. Le 1er mars 1979, les parents Moore font une horrible découverte alors qu'ils vont vérifier si leurs enfants vont bien. Ils se rendent compte qu'Andrew, alors âgé de 14 mois, est mort. Il est visiblement mort dans son sommeil. Les médecins concluent qu'Andrew a succombé à la mort subite du nourrisson. Mais cette réponse ne satisfait pas Jessie, qui ne cesse de se blâmer pour la mort de son bébé. Cette tragédie dans la famille Moore est évidemment très mal vécue par tout le monde. Jessie sombre dans la dépression, et Hélène se referme un peu davantage. Une semaine avant la mort d'Andrew, elle avait rompu avec son premier petit ami, et ne supportait pas bien la rupture. La mort de son plus jeune frère vient encore renforcer sa tristesse et sa détresse. Hélène explique alors à ses parents qu'elle veut trouver un petit boulot pour gagner un peu d'argent, et qu'elle aimerait d'ailleurs faire du babysitting. Jessie et son mari sont heureux qu'Hélène ne se laisse pas aller et qu'elle décide de faire quelque chose pour essayer d'aller mieux. Il est vrai qu'Hélène adore les enfants. D'ailleurs, elle a exprimé à plusieurs reprises son souhait d'enseigner aux enfants handicapés. Les premiers clients d'Hélène font partie de la famille, et Hélène est engagée pour prendre soin de sa cousine Suzanne, alors âgée de 16 mois. Les parents de Suzanne pensent que, compte tenu de la tragédie qu'a vécue la famille d'Hélène, cette dernière sera d'autant plus vigilante pour surveiller sa fille. Malheureusement, le 19 mai 1979, moins de 3 mois après la mort du petit Andrew Moore, alors qu'elle rentre chez elle après avoir laissé sa fille avec Hélène, la mère de Suzanne apprend la terrible nouvelle. Suzanne est, elle aussi, décédée. Les médecins légistes en viennent aux mêmes conclusions que pour Andrew. La petite fille est morte de mort subite du nourrisson.
Pour information, la mort subite du nourrisson est une sous-catégorie de la mort inattendue du nourrisson. La mort inattendue du nourrisson peut toucher un bébé de la naissance jusqu'à 24 mois, mais dans 8 cas sur 10, elle arrive dans les 6 premiers mois de la vie du bébé. Les causes sont souvent comprises a posteriori, de fait qu'il est difficile de les anticiper pour les parents. Il s'agit souvent de maladies cardiaques non détectées, de maladies digestives ou métaboliques, d'étouffement, d'infections. Les causes sont variées. Quand, même a posteriori, aucune cause n'est trouvée, on parle alors de mort subite du nourrisson, qui n'a aucune explication, aucune cause déterminée, et qui survient sans que quiconque ait pu le prédire. Il existe plusieurs moyens de réduire considérablement les risques de mort subite ou de mort inattendue du nourrisson. Le premier est de ne pas fumer en présence du bébé, ni à l'intérieur, ni à l'extérieur. Le contact d'un bébé avec le tabac, que ce soit in utero ou une fois qu'il est né, peut nettement accroître le risque de mort inattendue du nourrisson en causant des infections respiratoires, de l'asthme, des otites chroniques et des régurgitations. Le bébé doit, quand il est couché, être dans une chambre dont la température n'est ni trop élevée ni trop basse, si possible autour de 18 ou 19 degrés. Le bébé doit être couché sur le dos, sur un matelas ferme, dans un lit à barreaux dans l'idéal, sans couverture, doudou, cale-tête ni tour de lit, et dormir dans la même chambre que ses parents jusqu'à l'âge de 6 mois au moins. Une tétine peut être un facteur aidant à la protection de l'enfant, ainsi que l'allaitement maternel. Les morts infantiles sont assez rares quand l'enfant passe un an. En effet, en Australie, 35% des morts d'enfants surviennent le jour de la naissance et 16% arrivent la première semaine de vie du bébé. En tout, ce sont 62% des morts infantiles qui surviennent pendant la période néonatale, c'est-à-dire pendant les 27 premiers jours de la vie du bébé. En Australie, sur une période de 15 ans, entre 1981 et 1996, les morts inattendues du nourrisson ont chuté de 57%, les recommandations des professionnels de la santé ayant été comprises par la population. Cela dit, à son pic le plus haut, dans les pays riches, la mort inattendue du nourrisson pouvait tuer un enfant sur 250. De fait, la mort de Suzanne, la petite cousine d'Hélène, n'est pas suspecte. Il s'agit alors d'une terrible coïncidence, sans plus. Le drame que représente la mort de Suzanne ne met pas fin aux envies de babysitting d'Hélène, qui continue d'exprimer à ses parents son désir de garder des enfants. Les parents d'Hélène sont d'accord. Après tout, ces deux terribles accidents ne devraient pas empêcher Hélène de poursuivre son activité de babysitter. Dans la mesure où les Moore ont emménagé à Claymore, qui est une ville très récente, ils ne connaissent pas encore vraiment la communauté de Claymore. À vrai dire, une telle communauté est encore plus ou moins inexistante. Les habitants n'ont pas encore noué de lien entre eux, et bien que la ville soit de petite taille, les gens ne se connaissent pas entre eux. C'est pourquoi, quand Hélène cherche de nouveaux clients, et dans la mesure où la seule petite fille qu'elle ait gardée est décédée, ses parents décident de l'autoriser à publier son annonce dans une sorte de centre communal. Les familles arrivant à Claymore ne connaissant souvent personne sur place, beaucoup sont à la recherche d'une nouvelle babysitter, et Hélène trouve donc facilement de nouveaux clients, qui ne demandent souvent pas de référence. En effet, Hélène dit qu'elle a deux petits frères et qu'elle a déjà fait du babysitting. L'adolescente semble donc parfaitement capable de garder des bébés, ayant déjà de l'expérience personnelle et professionnelle. C'est ainsi qu'elle est embauchée dans la famille Nicholson pour garder le petit garçon de la famille, Vaughan Nicholson, âgé de 1 an. À cette période, 4 jours avant Noël, la maison de la famille Moore est ravagée par un incendie. Leur maison n'est pas sécurisée contre les incendies, et la famille perd une grande partie de ses biens matériels dans le feu. En janvier 1980, un épisode étrange se passe chez les Nicholson. Alors qu'elle regarde la télévision, elle entend le bébé pleurer dans son berceau. Visiblement, le petit Vaughan Nicholson ne va pas bien. Hélène décide donc d'appeler les secours, et le bébé de 12 mois est pris en charge. Il s'en sort, et les équipes médicales ne savent pas ce qui a pu se passer. Cet incident, certes suspect, ne met pas à mal l'envie d'Hélène de faire du babysitting. C'est pourquoi elle continue à accepter les différentes demandes de famille. Elle est donc engagée par la famille Crocker pour garder le petit Aaron, alors âgé de 2 ans. Le 1er février 1980, les secours reçoivent de nouveau un appel d'Hélène. Comme pour Vaughan Nicholson, elle a retrouvé Aaron Crocker dans son berceau, suffoquant et pleurant. Aaron ne s'en sort pas aussi bien que Vaughan. Cet épisode le laisse aveugle et le pauvre petit garçon n'arrive plus à marcher. Il meurt des conséquences de cette soirée quelques années plus tard. Hélène travaille aussi pour d'autres familles, y compris la famille Hay, dont elle garde la petite dernière, âgée de 2 ans, Rachel. Le 24 février, soit 3 semaines après l'incident impliquant le petit Aaron, un autre drame survient. Cette fois, c'est Rachel Hay qui est retrouvée morte dans son berceau. C'est la mort tragique de Rachel Hay, d'abord considérée comme mort subite du nourrisson, qui sème un léger trouble à Claymore. Il y a beaucoup d'enfants qui meurent ou qui ont des accidents graves, et tous étaient sous la garde de Hélène Patricia Moore, une adolescente charmante au demeurant. C'est alors que les familles commencent à discuter entre elles, pour la première fois. Est-ce que cette jeune fille, a priori bien sous tout rapport, serait à l'origine de tous ces drames ? En effet, si la cause retenue pour la mort de Rachel Hay est a priori bien la mort subite du nourrisson, cette explication en surprend plus d'un. La mort subite du nourrisson existe, mais elle devient assez rare quand l'enfant dépasse un an. Aussi est-il surprenant que presque tous les enfants décédés ou avec qui il y a eu des incidents aient dépassé les 12 mois. À vrai dire, il n'y a que Vaughan Nicholson qui a 12 mois au moment de son transport à l'hôpital. Les autres avaient en moyenne 2 ans. Hélène se retrouve donc sans enfant à garder. Aucune preuve n'est découverte et les familles n'ont aucune certitude, mais elles ne sont pas prêtes pour autant à demander à Hélène, dont la majorité des enfants qu'elle avait sous sa garde sont morts ou ont été accidentés, de garder leur précieuse progéniture. Hélène reste donc à la maison et n'a plus de petit boulot. Elle s'ennuie. C'est dans le cadre de son foyer que l'impensable se produit. Le 31 mars 1980, soit un peu plus d'un mois après la mort de la petite Rachel Hay, Jessie Moore, la mère de Hélène, rentre à la maison. Elle a laissé Hélène, 18 ans, et Peter, 7 ans, seul à la maison. C'est en arrivant vers chez elle, dans leur maison de Claymore, que Jessie fait une terrible découverte. Les ambulances entourent sa petite maison. En rentrant, elle apprend avec horreur que Peter, son fils cadet, a été retrouvé mort en bas des escaliers. Le sang de Jessie ne fait qu'un tour. Est-ce qu'elle avait raison depuis le début? Est-ce que Hélène, sa propre fille, aurait pu tuer Peter ainsi que ses autres enfants? Les ambulanciers et la police demandent à Jessie d'aller identifier le corps de Peter, qui a déjà été transporté chez le médecin légiste. Jessie prend donc sa voiture et demande à Hélène de l'accompagner. C'est alors que Jessie, en route pour aller identifier le corps de son fils, remarque un détail qui met fin à ses doutes, pour ne plus laisser de place qu'à des certitudes. Hélène a les bras pleins de griffures. Peter n'était pas comme les autres enfants morts précédemment. Il était capable de se défendre, tant bien que mal. Après tout, il avait 7 ans. Jessie le sait désormais. C'est sa fille Hélène qui a tué son propre frère, Peter. Elle en avertit la police. Famille ou pas, Hélène est visiblement extrêmement dangereuse et il faut qu'elle soit mise à l'écart pour le bien de la communauté. Devant de telles informations, la police décide qu'il est temps d'interroger Hélène.
Sa réaction ne se fait pas attendre. Devant la pression mise par les officiers de police, la jeune fille avoue. Elle avoue d'abord avoir tué son jeune frère, de 11 ans son cadet. Le lendemain, le 1er avril 1980, elle dit qu'elle a tué en tout 3 enfants. Cette révélation laisse la police complètement sous le choc. Comment une jeune fille d'apparence si équilibrée, dans une famille stable, pourrait avoir tué 3 pauvres enfants ? Dont 2 bébés. Les 3 meurtres qu'Hélène reconnaît sont ceux de son frère Peter, 7 ans, de Suzanne McIntosh, 16 mois, sa cousine, et de Rachel Hay, 2 ans. Quand la police lui demande pourquoi, Hélène répond seulement qu'elle en avait eu envie. Elle ne cherche aucune explication à ses gestes macabres, ni aucune justification d'aucune sorte. Elle semble ne pas regretter ses actes et en parle avec une certaine froideur. Elle explique qu'elle faisait ses devoirs à la maison, le lundi 31 mars 1980. Elle s'est levée et a vu son frère Peter regarder la télévision. Elle s'est approchée de lui par derrière et a, sans raison apparente, décidé de poser ses mains sur son nez et sa bouche pour l'étouffer. Elle dit au sergent Worsley que Peter s'est débattu. Elle ne s'y attendait pas, car ses autres victimes sont habituellement trop petites pour se défendre d'une quelconque façon. Peter a finalement réussi à se dégager des mains meurtrières de sa grande sœur et s'est levé du canapé. Il a ensuite couru vers la porte d'entrée pour fuir, mais Hélène l'a rattrapé. Elle l'a poussé au sol et l'a maintenu pour l'étouffer, selon ses propres dires, pendant 3 à 4 minutes, jusqu'à ce qu'elle considère qu'il était mort. Elle a ensuite été prendre une douche, puis a fait comme à l'accoutumée, et a appelé une ambulance. La police, et en particulier la personne en charge de l'affaire, le détective sergent Donald Worsley, est particulièrement choquée par de telles déclarations. Quel genre de personne tue un bébé, ou même son propre petit frère, sans ressentir aucune émotion? Dès le 1er avril, le procureur décide de poursuivre Hélène Patricia Moore. Les charges sont très lourdes. De 3 meurtres, l'accusation passe à 4, en incluant aussi le plus jeune frère d'Hélène, Andrew. Ce dernier est le premier à être mort, et la police considère qu'il s'agit du premier meurtre d'Hélène. Celle-ci réfute cette accusation. Le procureur décide aussi de poursuivre Hélène pour 2 tentatives de meurtre, ceux de Vaughan Nicholson et d'Aaron Crocker. Le procureur ne propose aucun accord à Hélène. Vu les charges qui pèsent contre elle et le fait qu'elle est avouée, il a très peu de doutes quant au dénouement du procès et décide donc de tenter le tout pour le tout et décide d'aller au procès. À la barre, lors de l'audience préliminaire, le détective chargé de l'affaire, Donald Worsley, parle des aveux d'Hélène. Il dit qu'Hélène lui a dit qu'elle avait attendu que les parents du jeune Aaron Crocker partent pour essayer de le tuer. Elle dit qu'elle a placé ses mains sur son nez et sur sa bouche, jusqu'à ce qu'il ne respire plus. Elle est ensuite allée se détendre dans le salon de la famille Crocker. Quelle ne fut pas sa surprise quand, comme pour Vaughan Nicholson, elle a entendu le bébé pleurer quelque temps plus tard. Elle a ainsi appelé une ambulance. Aaron était entre-temps tombé dans le coma. Il a été transporté en urgence au Liverpool Hospital, puis a été transféré au Prince of Wales Hospital. Il est resté 2 semaines dans un coma profond et a dû rester encore 6 semaines supplémentaires à l'hôpital. Le détective sergent Donald Worsley affirme que c'est à cause de l'attaque d'Hélène que le petit Andrew est devenu aveugle et ne peut plus marcher. Pourquoi ne pas avoir terminé le travail en tuant Vaughan et Aaron? Le détective sergent explique qu'Hélène Moore considérait que si l'enfant survivait, il avait en quelque sorte mérité de vivre, et qu'elle n'avait plus de raison de l'attaquer. Tout ça ne vaut évidemment pas pour Peter, qu'Hélène a poursuivi, même après qu'il se soit échappé. L'avocat d'Hélène, Jim Marsden, demande la libération sous caution pour sa cliente. Son argument principal étant qu'Hélène n'a que 18 ans, et que si elle était placée en détention provisoire, elle serait détenue avec un certain nombre de criminels endurcis et serait potentiellement en danger, à la fois physiquement et psychologiquement. Il va jusqu'à proposer qu'elle soit sous surveillance à domicile. Enfin, Jim Marsden indique au juge que sa cliente Hélène Moore a fait une demande de soins psychiatriques, car elle se rend compte de ce qu'elle a fait et indique avoir besoin d'aide. Le juge rejette la demande de libération sous caution. Ses arguments sont qu'Hélène risque de s'enfuir et qu'elle pourrait commettre d'autres crimes, les derniers ayant été commis de manière très rapprochée. Il place donc Hélène Moore, âgée de 18 ans, en détention provisoire en vue de sa comparution devant le tribunal de la ville de Glebe le 19 mai 1980. Emmenée dans sa cellule de la prison de Campbelltown, la ville voisine de Claymore, Hélène Moore s'effondre et est emmenée en urgence à l'hôpital. Elle y est alors traitée pour déshydratation. Lors de son procès, Hélène trouve finalement une explication à ses meurtres et tentatives de meurtre. Elle insiste sur le fait qu'elle n'est en aucun cas responsable de la mort de son plus jeune frère, Andrew. Elle dit qu'elle a été tellement bouleversée par sa mort qu'elle a jugé qu'aucun autre enfant n'avait le droit de vivre si lui ne vivait plus. Andrew était en effet son frère préféré, qu'elle chérissait de tout son cœur. C'est donc une sorte de vengeance aveugle qui l'aurait poussé à perpétuer tous ses actes monstrueux sur des bébés. Ainsi, malgré ses aveux, Hélène Moore décide de plaider non coupable. Le sergent détective Donald Worsley, de la brigade des homicides, comparaît une nouvelle fois à la barre pour rappeler en substance les aveux d'Hélène Moore. En décembre 1980, après que les jurés ont seulement délibéré 2 heures, Hélène Patricia Moore est reconnue coupable de 3 meurtres et de 2 tentatives de meurtre. Sa peine s'élève à 3 peines de prison à perpétuité et 20 ans pour les tentatives de meurtre. Dans une interview au journal Sun Herald, Jessie Moore, 37 ans, la mère d'Hélène, parle de ses prémonitions, de sa visite chez le psychiatre avec Hélène, et de son sentiment d'être une mauvaise mère. Elle parle des expériences traumatisantes de la vie d'Hélène, de la mort de son petit frère, Andrew, à cet homme qui lui a éjaculé dessus dans les transports en commun. En passant aussi par la fois où, à 5 ans, elle a été attouchée par un médecin. Elle aborde les événements dramatiques qui ont jalonné sa vie et celle de son mari John, 46 ans, ces deux dernières années. Tout a commencé par la mort d'Andrew en mars. Ensuite, en novembre, John, son mari, a été atteint d'une attaque foudroyante qui l'a laissé partiellement paralysé. À la même période, Jessie a fait une grossesse extra-utérine à un stade avancé. Ensuite, Peter, leur fils cadet, est tombé et s'est cassé un bras. Puis, 4 jours avant Noël, c'est leur maison qui prend feu. Et ensuite, Peter meurt, tué par sa sœur aînée. À ce sujet, Jessie dit que Peter était mort pour une raison, pour qu'Hélène puisse être incriminée. Les autres morts étant passées inaperçues, ce n'est que la mort de Peter qui était réellement suspecte, Peter étant âgé de 7 ans. Jessie dit à ce sujet: tout le monde me désigne comme la mère d'Hélène, mais j'étais aussi la mère de Peter. John et moi ne détestons pas Hélène pour ce qu'elle a fait. La haïr ne ramènera pas ses enfants. Pour certains, la peine d'Hélène ne sera jamais assez lourde. Pour d'autres, elle l'est déjà. Mais donner à Hélène une peine d'emprisonnement à perpétuité ne la guérira pas. Quand j'ai entendu le verdict, j'ai eu envie de crier « Vous avez tort !» J'attendais le verdict de coupable d'homicide involontaire, avec responsabilité atténuée. Le juge a déclaré qu'elle devrait recevoir tous les soins nécessaires et disponibles. Nous ne sommes pas riches, et nous ne pouvons pas nous permettre de la faire soigner dans le privé. Nous avons besoin qu'elle soit suivie par l'État. Elle a besoin d'un traitement continu. Bien qu'elle m'ait dit qu'elle était sincèrement désolée pour ce qu'elle avait fait et qu'elle ne le ferait plus, nous ne saurons jamais quand elle sera guérie. Je détesterais prendre la décision de la libérer dans 20 ans. Jessie explique qu'elle et son mari essayent désespérément d'avoir un autre enfant. Hélène n'étant pas la fille de John, et étant issue d'une précédente union, Jessie est encore la mère d'Hélène et de 2 autres fils issus de la même précédente union. Mais John a perdu ses 2 fils. Jessie Moore déclare: je prie Dieu de pouvoir donner à John un autre enfant, il le mérite. Contre toute attente, Hélène fait 13 ans de prison, avant d'être libérée en conditionnel en 1993. Peu de temps après sa libération, elle rencontre un homme, avec qui elle construit sa propre famille et a un enfant. Elle vit depuis paisiblement en Australie, dans la région de Sydney.
Bonsoir à tous. J'ai décidé aujourd'hui d'aborder l'affaire plutôt sous l'angle de l'enfant criminel et la relation paternelle et maternelle avec cet enfant, que j'ai trouvé beaucoup plus intéressante que l'angle de la vengeance aveugle qui prend apparemment Hélène après la mort de son petit frère Andrew, dont je crois d'ailleurs qu'elle n'est pas responsable, mais on pourra en débattre. Alors j'ai pensé aujourd'hui au film assez dur, We Need to Talk About Kevin, qui est un film de Lynn Ramsey, je suis désolé si je l'ai mal prononcé, sorti en 2011, dans lequel on suit Eva, interprétée par Tilda Swinton, qui survit tant bien que mal après que son fils a été incarcéré pour avoir perpétré une tuerie dans son lycée. Son fils, d'ailleurs, joué par Ezra Miller, personnage intéressant, mais qui joue ici un rôle probablement bien meilleur que celui qu'il joue dans Flash à l'affiche la semaine prochaine. Fin de la parenthèse. Donc seul dans sa petite maison, le personnage de Tilda Swinton repense à l'enfance de son fils Kevin, de sa naissance jusqu'au drame, en voyant les signes avant-coureurs qui auraient pu prédire le monstre qu'il était en train de devenir, et même d'ailleurs parfois le rôle un peu, non pas déterminant, mais en tout cas son implication dans la tuerie et dans la construction de la personnalité de son fils. C'est un film extrêmement dur, assez terrifiant, que je conseille pas à tout le monde, on va pas tous chercher ça au cinéma, mais c'est quand même extrêmement intéressant, assez juste, très délicat, pas si manichéen que ça, alors que c'est un sujet, basiquement, cet enfant reste un monstre, c'est dit dès le début, mais c'est pas traité, rien n'est noir, rien n'est blanc, tout est en nuances. C'est beau ce que je dis, j'espère que vous êtes émus. Voilà, je mentionne également, et Capucine pourra vous en parler plus que moi parce que je n'ai pas vu ce film, le film Terreur sur la ligne de 1979, auquel le titre de l'épisode du jour fait référence. Capucine m'en a beaucoup parlé, elle vous en parlera peut-être un peu d'ailleurs. C'est un film d'horreur, limite thriller, qui manifestement n'a pas très bien vieilli, mais qui traite d'un sujet très proche de celui de notre affaire. Et d'ailleurs, Capucine ne l'a pas mis, mais il y a aussi un film qui s'appelle La main sur le berceau, que je n'ai pas vu également, mais qui traite également d'une affaire finalement assez proche de celle qui nous intéressait aujourd'hui. Et donc, je reviens au sujet du jour, et en particulier à la thématique abordée finalement dans le film que je vous ai présenté. Petit spoiler, la paternité et la maternité sont des sujets qui aujourd'hui nous touchent, Capucine et moi, et qui seront notre actualité dans quelques petits mois. Donc c'est un sujet qui, moi en tout cas, m'a particulièrement touché, parce que ça doit être extrêmement difficile de se retrouver dans une situation où on comprend petit à petit, ou on ne veut pas comprendre que l'un de nos enfants devient un personnage relativement monstrueux. Donc ma question du jour, c'est comment pensez-vous qu'il est possible de gérer un enfant qui, comme Hélène ou Kevin, montre très tôt des signes de troubles de la personnalité antisociale ou des signes de psychopathie, sachant que le film en question, sans vous le révéler, donne deux façons de voir, à savoir comprendre et essayer d'accompagner, ou se voiler la face et finalement complètement occulter ces signaux. C'est une question très compliquée, qui demande pas mal d'empathie, et c'est celle que je vous pose ce soir, à tous les deux.
Merci Jean-Robert.
Merci Jean-Robert pour cette affaire.
C'est de rien. Ouais. Capucine, plutôt, est-ce que tu veux nous dire quelques mots sur Terreur sur la ligne, avant qu'on réponde à la question?
Écoutez, c'est un film dont le début est passionnant. Après, il y a eu à peu près une heure, 45 minutes, une heure, où il ne se passe pas grand-chose. C'est assez ennuyeux. Et puis, de nouveau, c'est assez passionnant vers la fin. Voilà.
Et ben, on a hâte de découvrir.
Alors, moi, je vais vous en parler autrement, parce que la mère de Capucine le vend beaucoup mieux. donc, je vais vous recracher ce qu'elle m'a dit. Ça commence un peu comme un thriller d'horreur à la Halloween ou à la Scream, où manifestement, une jeune fille qui garde des enfants, qui fait du babysitting un soir, est appelé par un tueur, encore une fois un peu à la Scream, hein, au téléphone, et qui finit par lui dire, je crois, soit j'ai tué, soit je vais tuer les enfants.
Non, il lui dit, êtes-vous allé dans la chambre des enfants?
Ah oui, êtes-vous allé dans la chambre des enfants? Et il a l'air d'être dans la maison.
Non mais attends, mais bon,
vraiment... D'où le titre de l'épisode.
N'écoutez pas Jean-Robert, il ne sait pas raconter ce film qu'il n'a pas vu.
Exactement.
Donc, ne voyez d'ailleurs pas forcément ce film, sauf si vous êtes très intéressé par les films d'horreur ou thriller des années 70-80. Mais oui, puisque c'est. En fait, il y a un gros manque de rythme. Alors après, il a été refait, genre, en. Je dis complètement au pif, hein, en 2007. et alors, l'actrice, c'est qui? C'est Camille Labelle? Elle existe ou pas, cette fille? Ou je dis au pif?
Je ne sais pas qui
peut-être,
c'est.
Peut-être qu'elle s'appelle Camille Labelle. Et alors là, c'est à peu près la même histoire, mais c'est le rythme est meilleur. Mais il a perdu son charme d'antan et la maison est tout en vert. Alors on a envie d'y vivre, mais on a envie d'y passer une semaine, mais on n'a pas envie d'y vivre parce que ça fait quand même vachement peur de vivre dans une
c'est
maison en vert.
C'est effrayant, une maison en vert, tout à fait.
Donc voilà, c'était mon avis.
Ok. Mais du coup, de ce que je comprends, Scream s'inspire du premier film.
Non, pas forcément, mais...
C'est très méta. Scream, c'est très méta.
Quoi ? Scream, c'est un film méta sur le, ouais. Sur le slasher ?
Sur le slasher, ouais.
Alors, donc, Terreur sur la ligne, c'est pas un slasher, mais en effet, il y a du harcèlement... ça commence par une scène de harcèlement téléphonique.
Mais en effet, Scream pourrait être inspiré potentiellement. Il a pu piocher là-dedans, c'est possible.
Et la personne qui joue la babysitter, c'est celle qui joue la vieille dans Kimmy Schmidt, Unbreakable Kimmy Schmidt.
Ok.
Voilà, c'était pour l'info. Et alors, La main sur le berceau, c'est un thriller des années 90. Où, alors, c'est l'histoire d'une femme dont le mari, donc qui est enceinte, et son mari est genre gynéco, et son mari attouche une de ses patientes qui décide de, qui est elle-même enceinte. Donc la patiente décide de porter plainte. Son mari est arrêté, et donc la femme, en fait, sous le choc, la femme du gynéco, je crois qu'elle fait une fausse couche. Alors,
une fausse couche et devient stérile. De façon...
Ah, d'accord. Ouais. Et puisque moi, j'ai pas lu le résumé, mais je me souviens de mes souvenirs. Pardon, allez. Et donc, elle décide de devenir babysitter pour la famille de la femme qui a porté plainte pour son mari. Et ça se passe plutôt mal.
Histoire de vengeance, du coup. Mmh. Ouais.
Mais qui serait aussi causée à l'origine par la mort... d'un enfant, comme ici la mort.
Oui, il y a un traumatisme en effet de mort d'enfant et de volonté de répéter le schéma qui nous ramène ce qui nous ramène pas mal à notre affaire. Mais bon, comme on n'avait pas vu le film, enfin moi je l'ai pas vu, j'ai pas eu le temps de le visionner, donc ce sera pour une prochaine fois.
Mais We Need to Talk About Kevin, c'est très bien aussi, hein.
Ouais. Mais en fait, ça marchait plus d'ailleurs avec.
Ça dépend l'angle qu'on prend, mais vu la question la question. Que tu penses tout parent, futur parent ou personne qui s'imagine parent ou même personne qui a un hamster qui déconne ou un chat psychopathe peut être amené à se poser.
Très bonne question. En effet, j'avoue que j'ai été surpris connaissant votre situation. Je me dis oulala, ils se font peur là. Mais pour répondre,
on va tous les deux avoir un enfant. Au même moment, mais pour être clair, ce n'est pas ensemble.
Voilà.
Non.
Non, c'est pas du tout ce que j'ai dit.
C'est une blague. Je sais pas pourquoi j'ai fait cette blague
nulle. D'ailleurs, comme tu as pu voir, je n'ai pas su comment rebondir.
Personne n'a su. Même moi, j'ai pas su.
Ça m'a laissé un peu sans voix. Non, évidemment que c'est pas du tout des questions qu'on se pose. On s'en pose déjà pas mal.
Oui,
mais,
oui.
Mais...
Enfin, moi, je me la pose. Hein.
Tomber sur une Hélène, quand même. Là. J'espère que la proba est pas très élevée. Quoi.
Moi, je me pose la question d'avoir un enfant psychopathe parce que la psychopathie. N'est pas causé par des trucs graves, contrairement à la sociopathie. Alors, on parle tout le temps de psychopathe, mais finalement, c'est une très petite majorité. Tu peux avoir un enfant en bonne santé, dans un cadre idyllique, et ton enfant devient complètement... Enfin, ton enfant, de base, a ça en lui, c'est un malade. Alors, pardon pour tous les psychopathes et sociopathes qui nous écoutent. Je pense qu'on veut dire que vous êtes des malades. Mais
oui, malade dans le sens clinique du terme, sans jugement moral. Hein, voilà.
Moi, il y a un léger jugement moral.
Bon, bah. Capucine n'a pas voulu de.
Non, les sociopathes, du coup, ça va. Mon empathie ne va pas jusque-là.
Ouais, tu veux répondre, du coup, Capucine, ou je comprends. En fait, je trouve que la maman, c'est Jessie, hein, c'est ça?
Ouais.
Je trouve qu'elle n'a pas une mauvaise réaction, pour répondre à ta question, Jean-Robert, justement, en psychologisant directement l'affaire, en allant voir un psychiatre. Je pense qu'elle a le bon réflexe. Ce dont j'ai l'impression, c'est que du milieu social d'où elle vient, de sa propre situation elle n'a peut-être pas exprimé correctement et que ça a éveillé des soupçons sur elle et pas sur sa fille et que du coup, sa fille est passée un peu entre les mailles du filet. Mais comment réagir je suis pas parent, mais faut imaginer qu'il y a toujours de l'amour, mais ce qui n'empêche pas une certaine lucidité, et notamment ça va avec un désir de protection. Et quand tu vois que quelqu'un est malade pour le coup cliniquement et au niveau psychique, médecin quoi.
Bien sûr, non, je suis d'accord avec toi. Et pour rebondir avec ce que tu viens de dire, la mère est relativement exemplaire là dans l'affaire aujourd'hui. En tout cas, elle aurait pu faire plus, mais elle aurait surtout pu faire beaucoup. Pas grand-chose en soi, peut-être.
Elle aurait pu avoir d'autres thérapeutes, mais je pense que ça doit être extrêmement dur quand tu présentes ton enfant à un psychiatre et qu'il te dit « Écoutez, madame, c'est vous qui visiblement n'allez pas bien, prenez du Valium, quoi. »
Et peut-être que ça, c'est une situation aussi, par rapport à ce que tu viens de dire, Mickaël, qui est plus commune qu'on le pense, à savoir tous ces gens, un peu sur le modèle du père dans « We Need to Talk About Kevin », aujourd'hui, je pense que tu te pointes chez un... J'en sais rien, c'est vraiment là, c'est de la discussion de comptoir, mais il y a de grandes chances que si tu te pointes avec ton enfant de 5 ans en disant « je l'ai vu maltraiter des fourmis, s'il vous plaît, on fait quelque chose », on te dise « attendez, calmez-vous, quoi ».
Mais en fait, surtout, je pense qu'aujourd'hui, les gens font plus attention, mais... Enfin, quoique non, parce que je trouve qu'on est dans un truc où tout doit toujours bien aller, et si ça va pas, c'est notre faute. Je pense que c'est super compliqué de faire ça. Et que je pense que si on dit mon enfant ne va pas bien, et a fortiori dans les années 80, parce que je pense qu'à l'époque... on se disait moins que... Enfin, on connaissait un peu... C'est pas hyper longtemps, mais il y avait quand même un peu moins de connaissances sur les maladies psychiques. Que un enfant, c'était forcément quelqu'un de pur. Mmh. Et il y a encore des gens qui pensent ça.
Oui.
Oh, mais non, mais il faut pas l'engueuler comme ça, c'est un enfant. Mais après, ton enfant, il tue ton chat, excuse-moi. Il y a quand même quelque chose qui va pas chez lui, quoi.
Ouais, ouais.
Bah, il y a toujours de la cruauté chez les enfants. Enfin, le... C'est vrai que l'enfance, ça peut être un terrain de choses étranges, dénuées justement de jugement moral. Et je pense que c'est pas évident pour un pédopsychiatre de faire le distinguo entre ce qui est normal avec de gros guillemets, type je démembre une sauterelle un été au camping,
ouais,
et je tue mon petit frère. Enfin, est-ce que c'est la même chose? J'en sais rien, pour le coup, je suis pas médecin.
Non, mais c'est aussi la découverte du pouvoir, de la vie, de la mort, j'imagine. On n'en sait rien, mais ça doit faire partie, en effet, de l'apprentissage. Mais oui, c'est ça. C'est faire la différence entre ce gamin-là, dans Winnie de Talk About Kevin, à qui on a filé un arc, parce que c'était aussi... dans le film, l'arc qui sert à la tuerie joue un rôle particulier, puisque c'est un des liens que trouve la mère avec son fils. C'est un des contacts, presque un des premiers liens qu'ils ont, et pour elle c'est du coup très important, et finalement c'est l'arme que le gamin utilise, enfin que le protagoniste, l'un des protagonistes utilisera pour commettre son crime horrible. Donc c'est très difficile, quoi. C'est très difficile.
Après, maintenant aussi on parle, bon, c'est pas une science exacte, mais il y a la triade McDonald's. Bon, là, j'ai regardé en même temps pour pas dire n'importe quoi.
Les frites, le burger, là, et les potatoes. Excusez-moi.
Surtout, tu peux pas avoir frites et potatoes dans un menu, mais réfléchis, Jean-Robert.
Non, mais tu commandes on the side. Tu commandes on the side. Là, je fais ça tout le temps.
Oh là là. Excellent.
En plus, maintenant, il y a les frites aux légumes.
Ça m'énerve.
Non, mais on sait tous que la triade McDonald's, c'est frites, burger, Coca. C'est pas potatoes. Bon, pardon. La triade McDonald's.
Burger King, Quick, histoire de citer plusieurs marques. Et attention, le CSA nous écoute de très très près, je crois.
C'est vrai qu'on est suivi. Hein. Ça, c'est petite notoriété, c'est incroyable.
La triade McDonald's, c'est un truc qui a été mis au point par le psychiatre John M. McDonald. Et ce sont trois signes qui pourraient indiquer la prédisposition d'un enfant à devenir psychopathe. Alors, il n'y a pas, comme je l'ai dit, il n'y a pas de devenir psychopathe, parce que psychopathe, c'est un truc de naissance, contrairement à la sociopathie, mais en fait, qui pourrait prévenir de troubles de la personnalité antisociale, plutôt. Donc, c'est la cruauté envers les animaux, la pyromanie et les l'énurésie nocturne, donc le fait de faire pipi au lit.
Ah bon ?
Très tard, oui. C'est persistant après l'âge de 5 ans.
Ok.
Donc, mais en l'occurrence, Hélène n'avait rien de tout ça.
Ouais. Oui.
Donc, visiblement, elle a quand même peut-être brûlé la maison de ses parents. Ça, c'est un doute.
Mm.
Mais c'est pas enfant, quoi. Alors que on en connaît. Enfin, moi, dans ma famille, il y en a plein des gens qui ont brûlé des chats.
Oh. Damn.
Tu comprends pourquoi on se pose des questions, Mickaël?
Oui, d'accord, ça y est, je vois. Bah, bon courage, hein, soyez à l'écoute, mais ferme à la fois.
Non, mais bon, en tout cas, non, je pense que le problème, c'est ça, c'est que en fait, je pense que l'erreur qu'a faite Jessie, c'est qu'elle a dit qu'elle avait eu des visions, qu'elle avait eu des prémonitions. Et donc tout de suite,
ça, ça sonne bullshit, quoi.
Ouais, tous les médecins, ouais, ils nous placent dans la catégorie. Je t'arrête.
Bah oui, ouais, c'est ça que je voulais dire tout à l'heure. C'est coucou, j'ai des prémonitions. Ok, elle est dingo, quoi.
Ouais, alors que si elle avait dit, en fait, je pense que dans ce cas, bon, alors je ne dis pas de mentir au corps médical, mais dans ce cas, si vous avez des soupçons qui sont très très fondés, bah, vous pouvez exagérer très fortement. Hein, vous dites que vous avez, parce qu'elle avait déjà arraché une quantité énorme de cheveux à son frère, bah, on peut dire qu'elle lui a vraiment qu'elle l'a limite scalpé.
Elle l'a scalpé, ouais.
Ouais, marseillaise. Hein.
Non, mais c'est vrai qu'il y avait quand même pas mal de signaux avant-coureurs qui faisaient dire que qu'il fallait mieux l'éloigner des enfants.
Après, ouais, ses parents sont responsables dans la mesure où il y a quand même deux morts, et ils les laissent. Enfin, à aucun moment ils disent bon bah peut-être tu vas arrêter de faire du babysitting, tu vois.
Oui, mais on ne sait pas à quel moment ce twist arrive en tant que parent où tu te dis c'est la prunelle de mes yeux.
Ouais.
Je l'adore.
Ouais, mais elle l'avait déjà. Mais...
Je suis quelqu'un de gentil. Ma femme est quelqu'un de gentil. À quel moment je vais mettre en doute la parole de mon enfant ? Et en vrai, ça doit être des moments très difficiles, de grosses déceptions où tu te mens à toi-même. C'est impossible, j'ai pas éduqué comme ça. C'est aussi, je pense que c'est aussi un peu de ta faute, du coup. En tout cas, psychologiquement, tu dois te dire, si c'est comme ça, c'est de ma faute. Donc, si j'accepte pas qu'elle soit comme ça, c'est pas de ma faute. Enfin, tu vois, il y a des mécanismes assez.
Bah, après, assez... c'est vrai qu'ils ont posé la question, enfin, Jessie a posé la question à Hélène après la mort de la cousine, je sais plus comment elle s'appelle, mais. Et Hélène a pété un câble. Alors qu'en fait, c'était elle.
Bah oui. Mmh.
Donc je pense qu'ils se sont dit bon bah on lui en a parlé, on a fait notre devoir, mais après bon faut être un peu con, quoi, qu'elle bosse au Burger King justement et qu'elle arrête, hein.
Oui, mais peut-être qu'elle aurait tué quelqu'un dans une friteuse, enfin qu'elle aurait brûlé des gens, tu vois.
C'était vraiment typiquement très spécifiquement sur les bébés,
sur les enfants. Ouais,
ça rentre dans une friteuse.
Oh.
Excusez-moi.
Non, nous ne demanderons pas de friteuse pour notre fils de mariage.
Ah non.
Ouais, c'est vraiment un sujet très difficile. Hein. Très difficile.
Bah, ouais, bah, c'est vrai que parmi tout ce qu'on a à traiter de bien sombre et dégueulasse, l'infanticide, c'est particulier quand même. Hein.
On se permet l'infanticide par un enfant. Fin...
L'infanticide par un enfant.
A fortiori, puisque à 18 ans, on n'est pas vraiment adulte.
Et puis, il y a ce côté aussi bombe à retardement dans sa propre famille. Alors, ça, c'est traité tant dans l'affaire que dans le film. Parce que... Bon, ouais, il y a peut-être un peu de spoil là, donc je vais m'arrêter là.
Mais
il y a ce côté où ça peut impacter. L'inaction peut avoir des conséquences dramatiques pour soi ou pour ses proches.
Et que pensez-vous du fait qu'elle n'a fait que 13 ans de prison ?
Alors, ouais, ça, c'est ça, très c'est étonnant.
Assez étonnant.
Et la manière dont tu as écrit l'histoire aussi, Jean-Robert, c'est très abrupt à la fin.
Ouais.
Il dit « Ah ouais, d'accord. » Mais je trouve que c'est très bien, c'est justement très bien écrit, parce que tu peux pas en faire des caisses là-dessus à tartiner. C'est « Au fait, 13 ans de prison, elle est maquée, elle a un gosse. »
Qu'est-ce que tu veux
dire? On attend le prochain fait divers avec impatience et on le traitera dans quelques années ou pas.
Il y a quand même 30 ans, mais...
À la base, je voulais parler aussi d'une série... comment elle s'appelle, cette série?
Candy Meurtre au Texas.
Et qui est tirée d'une histoire vraie que je vous laisserai découvrir, de Candy Montgomery, et dont la fin est un peu pareille. Hein, dans mes souvenirs, c'est...
Mais arrête de... Toi, ton truc, aujourd'hui, c'est de dire les fins des films. Enfin, stop.
Ok, regardez-la, c'est sur Disney+, je crois.
Oui. Vous avez plein de recommandations en tout cas aujourd'hui.
Mais ils sont contre-culturés. Tout ce que je dis.
Mais 13 ans, pas beaucoup, ouais.
13 ans, bah, vraiment en fait, pas assez.
Moi, après, ça m'avait choqué. J'avais regardé et les gens disaient, mais est-ce que vous connaissez un tueur masculin qui a eu une peine comme ça? Enfin...
Après, elle était mineure à l'époque.
Exactement,
de la plupart des faits.
Elle a tué énormément d'enfants.
Oui, mais elle a pas été coupable. Elle a pas été. Elle n'a pas été condamnée pour tout.
Elle a été condamnée quand même à 3 peines à perpétuité, plus 20 ans d'emprisonnement.
C'est une belle réduction, en effet, de peine.
Bah, honnêtement, moi, si je pouvais faire une réduction d'appart telle qu'elle a fait sa réduction de peine, eh bien, écoutez, je pourrais m'acheter un très beau...
C'est une belle métaphore immobilière que tu nous fais à la Capucine.
Oui,
un penthouse, un loft.
Non, je veux dire un hôtel, un truc, un hôtel particulier. Voilà, c'est tout, voilà. c'était compliqué.
Yes.
Écoutez.
Non, mais il est certain que c'est étonnant. Après, après, en effet, il y a un traitement des femmes qui est... Alors, attention à ce que je veux dire.
Non, non, là, tu franchis la limite. Bah, c'est moi, pas... ce que je veux dire, c'est qu'elle a clairement couché avec le juge, c'est tout. Voilà, c'est tout.
Et le greffier. Et ça, le greffier, ça paye toujours.
C'est finalement le plus important, parce que ce qui compte, c'est les écrits. L'histoire se souvient des écrits. Pardon.
Ah, super. Yes. Bon, bah écoutez.
Formidable.
Faites attention à vos enfants. Écoutez-les.
Demandez des recommandations aux babysitters.
Je pense que la clé, c'est peut-être aussi parler aux autres. Alors, la clé de la part de quelqu'un qui n'a actuellement pas d'enfant. c'est peut-être surtout communiquer avec d'autres personnes, avoir d'autres référents. Parce que je pense qu'on a, dans le cadre intime, on a du mal à voir ce qui est normal et ce qui ne l'est pas. Voilà. Parlez avec vos proches.
Mmh. Faites-vous aider.
Aussi.
Puis nous, on est là, quoi.
Nous, on est là.
Alors moi,
on va faire une soirée hotline.
Ne nous envoyez pas quand même tous vos mails. Hein. Parfois, je reçois, pas sur le truc de Parmi nous le diable, mais sur des trucs privés, des gens... C'est moins le cas maintenant, parce que voilà, mais par le passé, j'ai déjà eu des messages de gens qui me racontaient leur vie. Et je les connaissais ni d'Ève ni d'Adam. Ils me disaient, oui, alors je sais pas quoi. Putain, SOS Amitié, ça existe. Je ne suis pas rémunérée. Eux non plus, mais eux le font avec joie. Voilà, c'est tout. Mais c'est, pardon, c'est vrai qu'on pourrait faire une soirée hotline.
Quel beau message.
C'est cette douceur que vous appréciez, j'en suis sûr.
C'est ça que vous venez chercher ici. On pourrait faire une soirée hotline, c'est dangereux les soirées hotline. Je sais plus quel podcast avait fait ça, je crois que c'est le Floodcast.
Et vous avez aucun appel ?
Bah, c'est... Tu contrôles pas quoi. Tu contrôles...
Ouais, mais nous, le problème, c'est qu'on n'aurait aucun appel.
Ouais. Faudrait enregistrer avant. Hein. C'est un truc qu'on peut pas faire en direct quoi.
Ouais, mais bon, surtout, comment tu fais ça, sachant que nous, déjà, on galère à enregistrer quand on est deux.
Mais on s'appellera entre nous avec des accents, on jouera des personnages, voilà.
Ah, et on sait que, que certains de nos auditeurs ont adoré nos accents de certains épisodes. Leurs petites oreilles seront ravies.
Oui. Bah, peut-être que tu peux clôturer, parce que là, ça fait quand même hyper longtemps qu'on parle, et je pense que les gens en ont marre.
Tout à fait. Moi, la première. Clôturer. Moi, j'aimerais bien qu'on fasse un épisode de recommandation cinéma, parce que je suis assez frustré à chaque fois. J'essaie de caler des films dans des épisodes et je n'y arrive pas.
Choisi des thèmes.
Mais c'est pas du tout notre ligne éditoriale. Allez, sur ce, excellente soirée.
Attends, mais le prochain épisode, c'est l'épisode de Mickaël, peut-être ?
C'est l'épisode de Mickaël qui va nous en dire plus tout de suite.
Absolument. Alors, quelques parallèles avec l'affaire du jour, et notamment sur l'application de peine. Je ne vais pas trop en dire plus, mais c'est une affaire...
Raconter la fin de l'histoire.
Non, pas du tout. C'est une affaire que vous connaissez peut-être parce qu'elle est plutôt récente, mais elle n'a pas été beaucoup traitée de ce côté-là de la frontière franco-suisse.
Oh. Est-ce que c'est une affaire qui inclut un gilet ?
Pas du tout. En tout cas, je n'ai rien trouvé dans les articles concernant l'affaire.
Des mitaines.
Alors, en hiver, probablement...
Est-ce qu'il y avait un escalier ?
Pas d'escalier. Ah. Mais...
Une affaire franco-suisse.
Non, une affaire suisse.
Une affaire suisse.
On y parlera un petit peu d'équithérapie. Les bruits du chien sont magnifiques.
Non, mais c'est insupportable parce que Jean-Aubert ne respecte pas. Déjà tout à l'heure, il a commencé à jouer avec mes affaires sur le bureau. Après, maintenant, il se fait lécher par le chien, il lui dit même pas stop.
Il faut expliquer à nos amis auditeurs, nous avons un petit chien qui est extrêmement territorial. Du coup, pendant certains épisodes, je suis obligé de le prendre sur mes genoux pendant l'enregistrement. Et ami misophone, désolé, là, il s'est lancé dans une petite léchouille qui a dû...
Peux dire non. Tu n'es pas obligé de te laisser lécher par tout le monde.
Mickaël, on a très hâte d'écouter ton futur épisode. Merci beaucoup. On remercie, comme d'habitude, Evan et Noémie pour leur belle composition.
Evan, moi et Noémie, donc.
Exactement, pour leur très belle composition musicale. Et on vous souhaite à tous une belle semaine.
Oui.
Bonsoir.
Bonsoir, à bientôt. Bonsoir.